Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez, en principe, la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite prêché avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour toute personne qui l'écoute.
Je vous invite à prendre vos Bibles pour les ouvrir dans le livre de 1 Timothée. Et nous entendrons la lecture de 1 Timothée 3, les versets 14 à 16. Et ensuite, en deuxième lecture, Éphésiens 3, 1 à 12. Et vous pourrez déjà réfléchir pourquoi ce texte d'Éphésiens 3, 1 à 12 accompagne 1 Timothée 3, 14 à 16. Alors nous allons entendre ces lectures. Merci, Roland.
Timothée, les trois derniers versets. Je t'écris ceci avec l'espoir d'aller bientôt chez toi. Mais si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et il faut avouer que le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié en esprit, est apparu aux anges, a été prêché parmi les nations, a été cru dans le monde et a été élevé dans la gloire. Voilà le texte de base de la prédication et le texte complémentaire maintenant dans Éphésiens 3, les versets 1 à 12. Éphésiens 3, verset 1. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier du Christ Jésus pour vous, les païens, si du moins vous avez entendu parler de la grâce de Dieu qui m'a été accordée pour que je vous en fasse part, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère, comme je viens de l'écrire en quelques mots. En les lisant, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Les païens ont un même héritage, forment un même corps, et participe à la même promesse en Christ Jésus par l'Évangile, dont je suis devenu serviteur selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, le moindre tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens comme une bonne nouvelle la richesse insondable du Christ et de mettre en lumière la dispensation du mystère caché de toute éternité en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ainsi, désormais, les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité, selon le dessein éternel qu'il a réalisé par le Christ Jésus, notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance.
Merci. Ce matin tôt, j'étais fatigué. Et j'ai pris une Bible avec des commentaires d'études, vous avez peut-être déjà vu hein, ces petits, et je n'arrivais pas à lire. Donc j'ai pris une loupe et j'ai pu lire. Si le Saint-Esprit n'agit pas dans nos cœurs ce matin, c'est comme moi ce matin, face à ces pattes de mouche dans ma Bible que je n'arrivais pas à lire. Nous avons besoin de l'œuvre de Christ dans nos vies et nous comptons sur lui encore ce matin. Nous avons commencé l'exposition du livre de 1 Timothée et nous avons déjà passé par 5 étapes. Ouais, ça passe, hein? Et donc la première étape était l'introduction qui nous a permis de comprendre que c'est une lettre d'un apôtre de Christ adressée à un de ses enfants dans la foi. Ensuite, deuxième étape, nous avons vu que ce qui motive la lettre, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie qui permet de faire face aux fausses doctrines. Et peut-être que vous vous rappelez encore de ce texte de 1 Timothée 1,15 qui était aussi assez fort dans cette étape-là, en tout cas pour moi, où nous avions vu que Paul dit « Cette parole est certaine ». Est digne d'être entièrement reçu. Le Christ Jésus est venu pour sauver les pécheurs, dont moi je suis le premier. Ça, c'était dans la deuxième étape que nous avons vu ceci. Ensuite, la troisième étape, nous avons parlé de la place de l'homme et de la femme dans l'Église. Et je dois vous avouer que je continue à prier vraiment que le Seigneur permette à tous les hommes de prendre leurs responsabilités, déjà premièrement dans la prière publique dans l'Église. Donc je continue à prier que Dieu agisse dans les cœurs. Nous l'avions vu ensemble, peut-être que vous vous souvenez des 4 dimensions de la prière que nous avions vues, des 3D de la prière des hommes et des 3D de l'habillement des femmes. Ça vous dit peut-être quelque chose, c'était dans cette étape-là. Nous avons ensuite vu les caractéristiques des évêques qui sont les anciens bergers qui ont été exposés, c'est dans le début du chapitre 3 dans lequel nous sommes, et nous avons vu ensuite en cinquième étape, les caractéristiques des diacres assistants des anciens. Et nous avons vu ça la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons prendre une petite section qui nous donne la raison de la lettre. On a vu déjà la motivation, hein, cet amour pur, etc. Et ici, on voit la raison. Parce que Paul, il dit « Je t'écris et tu sauras ». C'est ce qu'on voit dans le texte qu'on voit aujourd'hui. Et il nous donne en quelques mots une description fabuleuse de l'Église et de la vérité qu'elle est appelée à transmettre. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui en fait. Et donc le programme de ce matin, eh bien là, on aura un premier point qui s'intitulera « Une Église organisée ». Ça c'est le début du passage. Ensuite un deuxième point, « L'importance de l'Église » avec plusieurs illustrations de l'Église, très fort ici. Et ensuite, en troisième point, « La grandeur de la vérité ». Alors commençons par la première partie, une église organisée. Alors regardez avec moi dans vos Bibles, au chapitre 3 de 1 Timothée, au verset 14. On va lire verset 14 et le début du verset 15. « Je t'écris ceci avec l'espoir d'aller bientôt chez toi, mais si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire, puis après dans la maison de Dieu, etc. » Si Paul n'est jamais venu à Neuchâtel, enfin à ma connaissance, mais je ne crois pas, si Paul n'est jamais venu à Neuchâtel, son écrit nous est parvenu. Si Paul n'est jamais venu à Neuchâtel, son écrit nous est parvenu. Dieu a choisi ce moyen pour que nous sachions comment il faut se conduire dans l'Église. En fait, Dieu a choisi ce moyen pour nous aider à le comprendre. Paul avait l'espoir d'aller chez Timothée à Éphèse. Nous ne savons pas avec certitude si ce projet a pu être mené à bien. Selon l'histoire qu'on peut reconstituer, il semblerait que Paul était dans un premier emprisonnement ici, avec cette lettre de 1 Timothée, qu'il a été relâché, qu'il a pu voyager, donc certainement qu'il a été à Éphèse voir Timothée. Puis ensuite, il a écrit la lettre de 2 Timothée, qui est lors de son deuxième emprisonnement, où il a ensuite été mis à mort. Mais afin que Timothée ne soit pas dépendant de la venue de Paul, les instructions sont mises par écrit et sont parvenues jusqu'à nous. La parole écrite de Dieu, ce canon inspiré de 66 livres, devrait en fait nous fasciner, nous façonner, nous guider, nous remplir, nous éclairer, nous accompagner, afin que nous sachions comment nous conduire, etc. Mais qu'est-ce que Timothée devait savoir ? Eh bien, ce ne sont pas des conseils à prendre ou à laisser que le Saint-Esprit a écrit par Paul. Il dit « Tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans l'Église ». En fait, le terme utilisé qui est traduit par « il faut » indique une nécessité, un devoir, une obligation, ce n'est pas une option. Donc le terme utilisé qui est traduit par « il faut » ici indique une nécessité, un devoir, une obligation, ce n'est pas une option. Ce que Paul a écrit face aux fausses doctrines sur les places de l'homme et de la femme dans l'Église, sur les caractéristiques des évêques et des diacres, ne sont pas des options en lien avec une époque, un contexte, une situation historique, mais la manière de se conduire dans l'Église. Et le contexte est l'Église, et tant que l'Église existe, les paroles de 1 Timothée nous permettent de savoir comment il faut se conduire dans l'Église. Ce n'est pas la culture, la manière de voir du monde changeant de la société qui est notre référence, mais la parole écrite qui nous indique comment il faut se conduire. Parfois, dans l'histoire de l'humanité, les instructions bibliques sont assez proches de ce qui se vit en société, lorsque dans sa providence, Dieu permet une époque fortement influencée par les valeurs bibliques. C'est ce que j'ai quand même l'impression d'avoir vécu quand j'étais beaucoup plus jeune. D'autres fois, les instructions bibliques sont tellement éloignées de ce que l'on se vit en société. Et c'est ce qui me semble, en fait, vivre de plus en plus actuellement. Pour reprendre quelques éléments que nous avons dans 1 Timothée, considérer un texte comme étant normatif et perpétuel semble actuellement complètement absurde. Maintenant, dans le monde où le relativisme ne s'est pas seulement répandu, mais a imprégné toute la pensée ambiante. Pourquoi une vérité qui devrait être toujours la même? Ou dans un ordre d'idées semblable, faire la distinction entre le vrai du faux est vu comme présomptueux, jugeant, voire offensant. Et celui qui n'a pas le même avis n'argumente plus pour faire comprendre son point de vue. Il se pose en victime blessée à défendre, accusant d'être étroit d'esprit à ceux qui sont en face de lui. Alors que la parole de Dieu est claire, il n'y a pas plusieurs vérités, mais une seule. Elle se focalise et provient de la vérité incarnée qui est Jésus-Christ. Ou encore, dernier élément que je prendrai, je ne parle même pas de la place de l'homme et de la femme dans l'Église ou des caractéristiques demandées aux évêques et aux diacres. C'est scandaleux pour notre société actuelle où tout doit être vécu selon les capacités ou les mérites, ou pire encore, un quota imposé qui n'a plus rien à voir avec la nature du rôle que Dieu a prévu. Pourtant, ce qui est écrit dans 1 Timothée reste la vérité pour les églises fidèles qui a été vécue dans le passé, qui est vécue maintenant et qui va être vécue dans le futur, jusqu'au retour de Christ. Parce que vous savez, lorsque vous achetez un appareil, vous recevez un manuel d'instruction. Bon, maintenant, ça devient des PDF et ce genre de choses, et puis, ou bien on essaie de faire des choses tellement faciles qu'on n'a pas besoin de lire les manuels d'instruction, mais enfin, voilà. Lorsqu'on achète un appareil, on reçoit un manuel d'instruction. Tant que votre appareil reste le même, le manuel d'instruction du constructeur ne changera pas. La nature de l'Église n'a pas changé et ne changera pas. La nature de l'Église n'a pas changé et ne changera pas. Ainsi, le manuel d'instruction du constructeur ne changera pas et ne doit pas être changé. Notre tâche est donc de ne pas réinventer l'Église, de trouver une façon d'adapter pour la rendre acceptable à notre société, mais de lire et comprendre les instructions qui n'ont pas changé et qui ne changeront pas. L'Église est organisée par Dieu. C'est son Église et il en est le propriétaire, le constructeur, le garant. Et l'Église est importante. C'est notre prochain point. Donc là, on vient de voir, quand Paul dit « Je t'écris ceci avec l'espoir d'aller bientôt chez toi, mais si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. » Et là, il continue en donnant quelques éléments qu'on va un peu creuser, parce qu'ils sont riches. « Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Alors, on va commencer par la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est un endroit de vie, un foyer où se réunit la famille de Dieu. Donc la maison de Dieu, c'est un lieu de vie, un foyer où se réunit la famille de Dieu. Les évêques et les diacres sont appelés à bien diriger leur maison. C'est le même terme que ce terme ici, maison de Dieu, afin d'être capables de prendre soin de l'Église de Dieu. Alors réfléchissons un petit peu à ce qu'est une maison, ce qu'il représente, ce qu'on y fait, quelle est sa place dans notre vie. Bon, juste une petite parenthèse. Je suis conscient que pour certains, la pensée de leur foyer n'est pas toujours réjouissante, malheureusement, parce qu'il peut y avoir des désunions, de la violence, des abus, du rejet. Et j'en suis vraiment triste. Et je prie que si c'est votre cas, tout en souhaitant des changements positifs, vous puissiez trouver un foyer dans l'Église et ultimement vous réjouir de cette place que Jésus prépare pour chacun des siens, selon Jean 14, 3, où il dit « Donc si je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai et vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Donc je referme la parenthèse en disant que lorsque nous réfléchissons à ce que représente la maison, nous le faisons en ayant en tête une situation saine et aimante. Donc quelques éléments qui sont venus à l'esprit concernant ce qu'est une maison, ce qu'elle représente, ce qu'on y fait, quelle est sa place dans nos vies. Quand je vous parle de votre maison. En fait, c'est un lieu où l'on vit. Simplement. C'est un lieu de repos. C'est un lieu où on s'habille. À la maison, on s'habille. Hein? C'est là qu'on a nos armoires d'habits, d'ailleurs. C'est un lieu où on se nourrit. C'est un lieu où les membres de la famille se retrouvent, en fait. C'est un lieu où, généralement, on se sent bien. Un foyer heureux est un endroit où l'on aime revenir. Un lieu auquel nous pensons lorsque nous sommes en voyage. Un lieu de refuge où l'on a ses repères. Un lieu où l'on accueille volontiers les autres personnes. Un lieu de confiance où on n'a rien à cacher. Ou souvent même où l'on ne peut rien cacher. Un lieu où la bienveillance nous permet d'aller ensemble vivre la grâce. Or, nous pourrions continuer à réfléchir à cette liste en parlant des générations qui peuvent se succéder dans une maison, de la maison du Père, dont nous retrouvons les traces dans l'Ancien Testament, et même dans la parabole du Père prodigue avec ses deux fils perdus, qui parle de la maison du Père dans Luc 15, et qui serait intéressante de réfléchir. Mais je vous propose de déjà nous arrêter ici et de déjà prendre quelques éléments que nous pourrons prendre avec ce qu'on a déjà vu. La maison de Dieu, donc maintenant on va parler de la maison de Dieu, hein, on a réfléchi à qu'est-ce que c'est qu'une maison, maintenant la maison de Dieu, devrait donc être une maison où l'on se nourrit. Et 2 Timothée 3, 16, 17 nous permet de comprendre que la nourriture qui est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, c'est l'Écriture inspirée de Dieu. Donc la Bible, la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu, pourquoi ? Parce que c'est la maison de Dieu. Deuxièmement, une maison où l'on vit ensemble avec des frères et sœurs que l'on n'a pas choisis. C'est ça l'Église aussi. La maison où l'on vit ensemble avec des frères et sœurs que l'on n'a pas choisis, mais que Dieu a choisis et qui sont bienvenus puisque c'est la maison de notre Père commun. Donc la maison où l'on vit ensemble avec des frères et sœurs que l'on n'a pas choisis, mais que Dieu a choisis et qui sont bienvenus puisque c'est la maison de notre Père commun. D'ailleurs, le chef de maison nous indique comment vivre ensemble. Si vous allez chercher tous les textes bibliques qui parlent de les uns les autres, vous allez voir, il y a beaucoup d'éléments qu'il nous dit comment vivre ensemble. Ou encore, vous pouvez simplement aller lire 1 Corinthiens 13, les versets 4 à 8, qui parlent de l'amour, qui est patient, qui est plein de bonté, etc. Ou encore Romains 12, de 9 à 21, avec ses 26 impératifs sur l'amour et que nous avions appris par cœur. La maison de Dieu, c'est aussi une maison où l'on s'habille. Par exemple, en revêtant les armes de Dieu décrites dans Éphésiens 4, 11 à 18. La maison de Dieu est aussi un Dieu où l'on a confiance, où l'on peut partager nos luttes, nos peines, nos joies, nos rêves, simplement être qui l'on est, tout en désirant progresser dans la ressemblance à Christ. Ça, c'est la maison de Dieu. Alors, est-ce que l'Église locale est notre maison de Dieu ? Peut-on y vivre selon les critères de Dieu ? Est-ce que lorsque nous avons une intimité avec Dieu, nous nous sentons bien dans l'église locale ? La maison de Dieu n'est pas un lieu fait par les mains des hommes. J'ai mon cher collègue, frère, ami qui vous le rappelle chaque dimanche qu'il préside. Ce n'est pas un lieu fait par la main des hommes. Ce n'est pas un bâtiment, mais un groupe de personnes en qui Dieu habite par son esprit. L'église locale est la manifestation visible de cette maison universelle dans laquelle nous trouvons des personnes de toute nation, de toute langue, qui se réuniront un jour devant le trône de l'agneau. Or, guidé par l'esprit, Paul fait le lien entre la maison de Dieu et l'église locale. Il l'a déjà fait d'ailleurs quand il a parlé de la maisonnée et l'église lorsqu'il a parlé de l'évêque. Si vous regardez un tout petit peu avant, verset 4 du chapitre 3, donc pour l'évêque, qu'il dirige bien sa propre maison, donc là on a le terme maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission avec une parfaite dignité, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu ? Un lien est déjà fait. Et si vous n'êtes pas tout à fait sûr qu'il y a un lien entre la maison de Dieu et l'Église, bon, bah regardez le verset 15. La maison de Dieu, qui est l'Église de Dieu ? Bon, bah voilà, là, il n'y a plus de doute. C'est l'Église du Dieu vivant. Donc, on va réfléchir à ce deuxième qualificatif du lieu dans lequel Timothée sait comment se conduire avec cette lettre que Paul lui a donnée. Donc, l'Église du Dieu vivant. On a vu la maison de Dieu, l'église du Dieu vivant. L'église ou assemblée, c'est un peuple mis à part, un groupe de personnes qui appartiennent à Dieu. C'est l'église du Dieu vivant. Ce n'est pas l'église de qui que ce soit d'autre. Si nous pouvons dire c'est notre église, nous pouvons le dire dans le sens de la filiation à la famille de Dieu et non pas dans un sens de propriétaire. Ce n'est que Dieu qui peut dire « c'est mon église » dans le sens du propriétaire. Dieu en est propriétaire. Lui peut dire « c'est mon église ». Nous pouvons dire « c'est mon église » dans le sens de l'appartenance. J'y appartiens. Et ainsi, nous pouvons aussi dire « c'est mon église ». Simplement, ce n'est pas dans le sens du propriétaire, c'est dans le sens de l'appartenance. Les personnes qui font partie de l'église de Christ, donc je parle de ceux qui sont habités par Christ, qui ont professé publiquement leur foi, ces membres du peuple de Dieu sont passés du royaume des ténèbres au royaume de Dieu, au royaume de lumière, le royaume de Dieu. Et ce royaume sera pleinement manifesté lors de l'avènement du roi, lorsque Jésus-Christ reviendra triomphant. En attendant, l'église locale est la manifestation visible de l'église de Christ, qui est l'ambassade de ce royaume. Nous sommes des ambassades de ce royaume. Et les membres de l'ambassade ont un lien avec un dirigeant vivant. Nous ne sommes pas en lien avec des reliques ou des choses du passé que quelqu'un aurait mis en place, puis simplement le perpétue. Non, nous sommes en lien avec quelqu'un de vivant. C'est l'Église du Dieu vivant. Donc j'aimerais nous donner deux applications parmi d'autres que l'on peut retirer de cette simple phrase « Église du Dieu vivant ». La première, c'est Dieu le propriétaire. Je ne vais donc pas avoir une attitude de propriétaire, mais de bénéficiaire d'un lieu de vie respectant ce que le Père parfait me demande de vivre dans sa maison. Et deuxièmement, nous faisons partie d'une église d'un Dieu vivant, à qui l'on peut s'adresser, qui agit encore aujourd'hui. Ils ne font donc pas hésiter à s'adresser à lui dans la prière personnelle et en communauté. Donc on fait partie d'une église d'un Dieu vivant. Voilà pourquoi on va pouvoir s'adresser à lui et il agit encore aujourd'hui. La maison de Dieu, l'église du Dieu vivant et enfin, troisième illustration qu'on a dans ce verset 15, la colonne et l'appui de la vérité. Écoutez bien cette phrase. S'il n'y a plus d'église, il n'y a plus de colonne et d'appui de la vérité. C'est bon, vous avez pu enregistrer là. S'il n'y a plus d'église, il n'y a plus de colonne et d'appui de la vérité. C'est une raison pour laquelle Dieu protège son église qui ne pourra jamais totalement être détruite. Jésus a dit dans Matthieu 16, 18, « Et moi je te dis, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Personne ne peut détruire l'église que Jésus construit. Cela ne signifie pas que l'église n'a rien à faire. Un de ses rôles, c'est d'être la colonne et l'appui de la vérité. Saviez-vous que vous ne trouvez nulle part dans le Nouveau Testament un ordre ou une affirmation disant que la nature de l'Église est de faire des œuvres sociales pour le monde ? Nulle part. Alors oui, il est question de prendre soin des membres de l'Église, des frères et sœurs en Christ, dans Jacques, des veuves fidèles à Christ, on le verra dans Timothée, ce qui est un trait caractéristique familial. Mais vous ne trouverez pas d'ordre de porter toutes les misères du monde. Alors, ne me comprenez pas mal. L'Église peut mettre des services sociaux pour les démunis en dehors de l'Église en place. Alors bon, à mon avis, avec systématiquement l'annonce de l'Évangile. Mais ce n'est pas une obligation. Par contre, il est clairement dit ici dans ce texte que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. C'est dans la nature que Dieu a donné à l'Église, d'être la colonne et l'appui de la vérité. Et ça, personne d'autre, rien d'autre ne le fera et n'est appelé à le faire. Donc avant de réfléchir à comment nous pouvons le vivre, il me semble encore important de souligner un élément. L'Église est une colonne et un appui, elle n'est pas la vérité. L'Église est une colonne et un appui, elle n'est pas la vérité. L'Église n'est pas l'auteur de la vérité, ni le fondement, elle en est plutôt la porte-parole. La porte-parole de la vérité. L'Église est une colonne et un appui, elle n'est pas la vérité. L'Église n'est pas l'auteur de la vérité, ni le fondement, elle en est plutôt la porte-parole. L'Église a reçu la vérité de Dieu, et cette vérité est personnifiée en Christ. Mais l'Église, elle, ne devient pas vérité. Voilà pourquoi les réformateurs, tout comme nous d'ailleurs, tenons tant au « sola scriptura ». Notre autorité est la parole de Dieu et non pas l'Église qui est appelée à se soumettre à l'Écriture et à proclamer la vérité. Alors oui, il est bon de chercher la vérité seul dans son cœur. Non, c'est pas bon. Il n'est pas bon de chercher la vérité tout seul dans son coin. Nous ne croyons pas au solo scriptura. Non, le Saint-Esprit a déjà œuvré dans le cœur de nos prédécesseurs, qui n'étaient pas moins intelligents que nous, n'en déplaise aux évolutionnistes. C'est donc une bonne idée de s'intéresser à ce qui a déjà été réfléchi pour comprendre la parole de Dieu et chercher un chemin commun dans l'Église locale. Chercher à avoir une interprétation commune dans une Église avec les frères et sœurs exerce le discernement. Tout seul dans son coin, il y a des choses qu'on ne voit pas. Alors que notre frère, notre sœur va dire des choses, dire « Ah ben voilà, ça m'éclaire ». Ou bien parfois même, ça exerce notre flexibilité d'esprit. Je suis tellement sûr que c'est comme ça, et l'autre arrive et dit « Est-ce que je serai assez flexible de dire « Ben peut-être que je dois me remettre en question ». Et puis ensemble, en Église, on veut cheminer et grandir. Parce que nous voulons être malléables à l'écoute de la parole de Dieu. Et ne pas imposer au texte biblique notre interprétation personnelle, comme ça se fait beaucoup trop souvent. L'exemple des Béréens nous revient facilement en tête. Ils examinaient, remarquez le pluriel ici, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact dans Actes 17, 11. C'est en Église que cela se vit. Mais cela ne signifie pas que l'Église détient l'autorité sur la vérité. Elle en est la colonne et l'appui. Alors rappelons-nous que Timothée est à Éphèse. Et à Éphèse, en fait, il y a un grand temple, le temple d'Artémis, avec beaucoup de colonnes en fait, qui tiennent le toit si imposant de ce temple. Donc les Éphésiens, quand ils reçoivent cette lettre, ils ont une image de cette colonne. Il voit que c'est un appui, c'est quelque chose sur quoi on peut mettre quelque chose qui a de la valeur, qui permet de le faire voir. Un peu comme une lampe que l'on met sur un chandelier afin d'éclairer. Donc comment pouvons-nous vivre pratiquement que l'Église soit la colonne et l'appui de la vérité ? Eh bien, je vous propose une première manière de le faire, c'est de prier pour que la parole de Dieu soit prêchée fidèlement et entièrement dans l'Église. C'est une première manière de vivre cela, en fait. C'est de prier pour que la parole de Dieu soit prêchée fidèlement et entièrement dans l'Église. Ensuite, de s'encourager à étudier la parole de Dieu ensemble, en Église. Il y a des études bibliques le jeudi soir, il y a des groupes de dames, enfin différents groupes, l'étude biblique pour les Ukrainiens, etc. Des lieux, en fait, où ensemble, on va étudier la parole de Dieu, pour ne pas être chacun dans son coin et chercher, en fait, à vivre et à faire vivre la vérité dans les cœurs de chacun. Ensuite, un autre élément, c'est inviter des personnes à venir écouter la parole de Dieu. C'est aussi ainsi, en fait, que nous allons avoir l'Église comme étant colonne et appui de la vérité. Parce qu'en fait, Dieu nous dit dans sa parole que c'est par la folie de la prédication qu'il plaît à Dieu de sauver les croyants. Alors, si vous vous dites, si j'invite un de mes collègues ici, c'est de la folie, ben, invitez-le, c'est ce que la Bible dit. Mais oui, on ne maîtrise pas ce que Dieu va agir dans les cœurs. Ok ? Alors, soyons aussi un autre élément que j'aimerais souligner de comment être cette colonne et cet appui. Soyons courageux et ne reculons pas devant les affirmations de la Bible qui vont à l'encontre de notre société et qui permettent de démasquer les faux enseignants. On a déjà un petit peu vu au début, on le verra à la fin aussi de Timothée. Mais par exemple, comme la vérité qu'il n'y a qu'un chemin qui mène à Dieu et au salut éternel, c'est Jésus-Christ. C'est la Bible qui l'affirme. Et si l'Église ici veut être colonne et appui de la vérité, c'est ça qu'il faut affirmer. Même si la société nous dit « vous êtes fous ». Ou encore, comme la vérité que la vie est sacrée, que personne ne peut y toucher sans un jugement sévère de Dieu, car tout subsiste en Christ. Il faut se rendre compte que tout vient de Christ. Il est le seul chemin. Le fait que la vie est précieuse, c'est parce que tout subsiste en lui. Et là, on peut prier pour nos voisins français qui viennent d'avoir une loi qui est inique. Ou encore comme la vérité du mariage qui doit être un reflet de la relation de Christ avec l'Église. Une alliance dont l'altérité comme Christ est différent de l'Église, avec des rôles et autorités différenciées et où chacun cherche le bien de l'autre. Mais vous savez, toutes ces vérités reposent sur le cœur de la vérité. Et l'apôtre Paul, il a écrit ici, il faut que j'aille dire à Timothée le cœur de la vérité. Et c'est ce qu'on va voir maintenant ici dans le verset suivant. Le Saint-Esprit par Paul veut nous faire réfléchir au cœur de la vérité qui est le grand mystère de la piété. C'est notre prochain point. Alors regardez avec moi ce verset 16. Il faut avouer que le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié en esprit, est apparu aux anges, a été prêché parmi les nations, a été cru dans le monde, a été élevé dans la gloire. Le mystère. Alors, avant de parler du contenu, il est important de comprendre de quoi on parle quand on parle de mystère. Je ne sais pas qu'est-ce qui vient à votre esprit quand je vous parle de ce terme « mystère ». Ce terme est souvent utilisé par Paul et il renvoie à l'ensemble du contenu révélé dans le plan de Dieu visant à apporter le salut par Christ. Waouh, c'est un peu dense là, ce que je viens de dire. Je le redis, puis après j'explique un peu. Donc ce terme mystère est souvent utilisé par Paul et renvoie à l'ensemble du contenu révélé du plan de Dieu visant à apporter le salut par Christ. Si quelqu'un veut des références, je peux lui en donner. Alors, une définition du terme mystère nous dit que cela signifie « vérité de foi contenue dans la révélation et qui, sans contredire la raison, la dépasse ». J'aime bien cette définition. Dans le Nouveau Testament, le terme « mystère » est quelque chose qui est caché et qui a été révélé, dévoilé, manifesté. Donc, dans le Nouveau Testament, quand vous rencontrez ce terme « mystère », c'est quelque chose qui a été caché et qui a été révélé, dévoilé, manifesté. C'est la raison pour laquelle nous avons lu le texte d'Éphésiens 3 avant la prédication. Peut-être que vous vous rappelez que Paul parlait de ce mystère dont il avait reçu de l'intelligence pour le comprendre et puis qu'il le transmettait. Et nous allons voir un autre texte, comme ça il est un peu plus court, dans Colossiens 1, 26-27, qui dit ceci. « Le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Donc quand on lit mystère dans le Nouveau Testament, ce n'est pas une religion à mystère, c'est-à-dire des choses à trouver, des choses cachées que personne ne sait. Si je dis ça, c'est si quelqu'un s'intéresse un peu au gnosticisme du 1er siècle, c'était justement cette notion qui était derrière. Non. Quand vous rencontrez ce mot mystère dans votre lecture biblique, ne cherchez pas à percer un secret. Ça, c'est ce que les prophètes cherchaient à faire avec raison. D'ailleurs, il est dit dans 1 Pierre 1, les versets 10 à 12, ceci. Les prophètes ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée et ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux et qui, d'avance, attestaient les souffrances de Christ, et la gloire qui s'en suivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient ministres de ces choses. Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile, par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et les anges désirent y plonger leur regard. Dans ce mystère révélé. Dans le Nouveau Testament, le mystère qui était caché dans l'Ancien Testament est révélé. Et cette révélation, c'est une personne. Mais c'est écrit, regardez, Timothée 3, 16, c'est celui qui. C'est là, celui qui. Et puis ensuite, il y a 6 caractéristiques qui nous indiquent ce qui est mis en lumière, que plus rien n'est caché. Celui qui, ou Dieu qui, c'est Jésus-Christ. Ce celui qui, c'est Jésus-Christ. Celui qui dit... « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Je vais faire ici une petite remarque en lien avec des traductions. « Celui qui, dans la version byzantine du Nouveau Testament grec, que généralement, d'ailleurs, je privilégie parce qu'on a plus de copies, et c'était des versions qui étaient utilisées et non oubliées dans un coin, comme le Codex Sinaiticus, par exemple, et les premiers commentateurs grecs et cette version byzantine, lorsqu'ils citent 1 Timothée 3, 16, ne disent pas « celui qui a été manifesté en chair », mais « Dieu qui a été manifesté en chair ». Dieu qui a été manifesté en chair. Alors, cette petite variante ne change pas fondamentalement le texte, car nous pouvons savoir que celui qui, c'est Jésus-Christ qui est devenu homme, qui est Dieu et qui est devenu homme. Mais je préfère actuellement l'option qui a été prise par la seconde 21, qui reprend ces versions byzantines et qui dit « Dieu est apparu aux hommes ». Et c'est quelque chose de très fort, parce que c'est une affirmation de la divinité de Jésus-Christ de manière claire dans ce texte. Et l'Église est la colonne et l'appui de cette vérité. Une vérité révélée dont 6 facettes sont indiquées ici. Je vous l'ai dit rapidement, on va les voir ensuite. La vérité de la manifestation en chair de Jésus-Christ. La deuxième, la vérité de la justification en esprit de Jésus. La troisième, la vérité de l'apparition de Christ aux anges. Quatrièmement, la vérité de Jésus prêché parmi les nations. Cinquièmement, la vérité de la foi placée en Jésus-Christ dans le monde. Et sixièmement, la vérité de l'élévation de Jésus-Christ en gloire. C'est les 6 vérités que l'on voit ici. Donc si on les prend rapidement, la vérité de la manifestation en chair de Jésus-Christ. Franchement, qui aurait pu imaginer que le Créateur prenne la forme d'une créature ? Franchement. Nous, on a la Bible, ça paraît tellement naturel. Pour venir sauver ses élus, Jésus, qui est Dieu, a choisi à se limiter et devenir une créature. Je prends une image très, très, très limitée. Mais c'est un peu comme si nous voulions sauver les limaces et que nous devenions une limace nous traînant dans sa bave. T'imagines bien. C'est ce que Jésus a fait pour venir te sauver. Es-tu conscient de sa situation, de la situation sans espoir sans Jésus? Et Jésus est tellement conscient de notre situation sans espoir qu'il est capable, j'ai dit que c'est limité l'illustration, hein, mais de devenir une limace pour sauver des limaces que nous sommes. C'est une image. Deuxième vérité, la vérité de la justification en esprit de Jésus. Cette justification, en fait, s'est manifestée lors de la résurrection, comme le dit Romains 1, verset 4. Romains 1, verset 4, il est dit qu'il est déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par la résurrection d'entre les morts. La résurrection est une vérité fondamentale du christianisme et elle doit être sur cette colonne et appui de la vérité. Celui qui ne croit pas à la résurrection physique de Jésus-Christ, à mon humble avis, ne peut pas se considérer comme chrétien. Parce qu'il renie le fondement, un fondement de la foi chrétienne. Et il suffit de lire 1 Corinthiens 15 pour le comprendre. 1 Corinthiens 15, verset 14, qui dit « Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. » Mais vous savez quoi ? Il est ressuscité ! Jésus est ressuscité ! C'est une preuve de l'acceptation du sacrifice, une preuve de sa puissance transformatrice et l'espérance de notre propre résurrection. Comme il a dit un peu plus loin dans 1 Corinthiens 15, « Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est le prémisse de ceux qui sont décédés. » Donc là, j'ai une question que j'aimerais vous poser, mais ne donnez pas, vous pouvez donner la réponse dans votre cœur, mais ne donnez pas la réponse d'école du dimanche. Donnez la réponse. Donc la réponse d'école du dimanche, c'est celle qu'on attend. Mais il faut donner la réponse que vous avez réellement au fond de vous. Crois-tu que Jésus est ressuscité et qu'il peut te donner la vie? Ça, c'est une question fondamentale. Et c'est une question de laquelle dépend la vérité que l'Église met sur sa colonne. Une autre vérité qu'on a vue, la troisième, la vérité de l'apparition de Jésus aux anges. L'œuvre de Christ est faite pour les humains, mais ça intéresse aussi les anges qui s'intéressent à son ministère. C'est très étonnant. C'est parce qu'ils ont compris, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et en fait, les anges sont là depuis le début de la vie de Jésus jusqu'à la fin. Je ne sais pas si vous êtes déjà marqué. Avec Marie, l'ange Gabriel arrive et lui dit « Hello, il y aura quelque chose qui va se passer là. » Il est présent, il vit cela, c'est quelque chose de très fort. Les anges annoncent la naissance au berger, c'était quelque chose d'extraordinaire. Un ange va même intervenir pour la protection de Jésus afin qu'Hérode ne puisse pas le tuer. Ou encore des anges vont servir Jésus après son temps de tentation dans le désert. Ou encore dans sa lutte spirituelle au jardin de Gethsémané, un ange apparaît pour le fortifier. Ou encore lors de la résurrection, des anges sont présents. Les anges étaient là et voulaient voir ce que Christ faisait. Et Dieu les a même manifestés pour que nous nous en rendions compte. Et si les anges s'intéressent à ce que vit Jésus, alors même que cela ne les concerne pas, est-ce qu'on pourrait ne pas s'y intéresser alors que cela nous concerne directement? La quatrième vérité, la vérité de Jésus prêché parmi les nations. Quand je vous dis prêché parmi les nations, qu'est-ce qui vous vient en tête? Souvent, c'est Matthieu 28 qui arrive. Quand Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Celui qui peut dire qu'il fait partie d'une nation, qui peut dire ici qu'il fait partie d'une nation? À tout le monde, évidemment. Eh bien, vous êtes concerné par cette prédication? La prédication a été donnée à toutes les nations. D'ailleurs, Jean a vu par avance l'accomplissement dans Apocalypse 7, 9. Hein. « Après cela, je regardais, voici, une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. » Il se tenait devant le trône, devant l'agneau. Feras-tu partie de cette foule? Ou seras-tu dans les temps de feu? Cinquième vérité, la vérité de la foi placée en Jésus-Christ dans le monde. Lors de la réforme, et nous aimons encore le dire, solus Christus. Bon, j'avais donné une prédication en 2017, ça fait longtemps. On peut y revenir si jamais sur le solus Christus. C'est le salut par la foi en Jésus seul. Et il n'y a pas un endroit dans le monde où cela ne doit pas être vécu ainsi. C'est en plaçant sa foi, en faisant confiance en Jésus-Christ qui a tout accompli, que nous pouvons être sauvés. Sauvés du juste jugement qui pesait sur nous. En Jésus seul. C'est même pas mon action, c'est même pas le fait de croire. Parce que quand je vais croire, puis je verrai en arrière, je vais dire « Ah, quel cadeau, il me l'a donné cette fois. » Mais je ne vais pas attendre qu'il me la donne, je vais l'exercer. Et me réjouir que c'est un don de sa part. Donc par rapport à cette vérité, la question que nous avons, c'est « As-tu placé ta foi en Jésus-Christ seul ?» Est-ce que tu exerces cette foi et est-elle vivante selon les critères de Jacques ? Les critères de Jacques ? J'ai prêché sur Jacques il y a une année et demie. Ça, c'est un peu plus proche. Non, mais pour ouvrir vos Bibles dans Jacques, je ne vais pas vous le faire maintenant. Donc, est-ce que tu exerces la foi selon les critères de Jacques ? Et la dernière vérité qu'on voit ici dans ce texte, qui est extraordinaire, Jésus n'est pas resté sur cette terre lors de l'ascension, il est retourné dans sa gloire. Comme c'est écrit dans Philippiens 2,9, où il est dit « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » Cette vérité nous indique plusieurs choses, comme par exemple, Jésus est roi. Il est au-dessus de tout. Vous le croyez ? Il est roi ! Alors j'ai une question. Est-ce que vous lui obéissez ? On essaye, hein ? Pas toujours facile. Mais si on essaye, c'est qu'on croit qu'il est roi. Si on ne croit pas qu'il est roi, on n'essaye pas. Ça, c'est sûr. Alors. Parce que si c'est notre copain, c'est mon copain, Jésus. Hein ? Si c'est votre copain, je vous encourage à reprendre 1 Timothée 3, verset 16 et à étudier longuement la dernière phrase où il est dit qu'il a été élevé en gloire. Avec tous les autres textes que vous trouvez dans la Bible qui parlent de cela. Deuxième vérité pour qu'on peut sortir ici, c'est que Jésus est auprès du Père comme un avocat pour ceux pour qui il a payé la dette. Et il prie pour nous, maintenant. C'est magnifique. Parfois, on ne sait pas comment prier. Parfois, on se dit, mais qui va prendre ma défense ? Ou on se dit, mais où j'en suis ? Lui, il sait où on en est. Et en plus, il nous tient, il nous garde. Il nous fait avancer. C'est notre assurance. Notre assurance n'est pas à l'intérieur de nous. Notre assurance est dans le fait que Jésus est auprès du Père et qu'il intercède pour nous, qu'il est notre avocat. Il dit, j'ai payé pour Marc, j'ai payé pour Monique, j'ai payé pour Patrick. Enfin, je ne vais pas faire tout le tour. Vous comprenez, vous pouvez prendre votre prénom. J'ai payé pour toi. Alors, si je vous relis le texte du jour, est-ce que vous le comprenez un peu différemment ou plus profondément ? Je vais le faire, comme ça vous allez tout de suite faire l'exercice. Je t'ai écrit ceci avec l'espoir d'aller bientôt chez toi. Mais si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et il faut avouer que le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié en esprit, est apparu aux anges, a été prêché parmi les nations, a été cru dans le monde, a été élevé dans la gloire. Qu'allez-vous retenir ? Alors, je vous propose trois choses, mais vous osez retenir d'autres choses. Et je vous encourage même à les partager après le culte à ceux qui sont ici autour de vous. Alors, les trois éléments que je nous encourage à retenir, c'est que ce qui est écrit nous indique comment il faut se conduire dans l'Église. Ce n'est pas ce qu'on a envie, ce que la société nous pousse à ajouter ou enlever. Non, ce qui est écrit nous indique comment il nous faut nous conduire dans l'Église. Premier élément. Deuxièmement, l'Église est la maison de Dieu où il fait bon vivre. Elle est la colonne et l'appui de la vérité. Notre fidélité à la parole de Dieu est donc primordiale. Donc prions que tous ici, nous ayons ce même désir d'être fidèles à la parole de Dieu. Et que vous soyez même capable de venir dire, « Tim, t'es bien gentil, on t'aime beaucoup, on prie pour toi, mais t'as dit un truc dans la prédication là, est-ce que c'est vraiment biblique ?» Si vous faites ça, c'est parce que vous aimez la parole. Il ne faut pas hésiter à le faire. Alors si c'est juste pour m'embêter, bon, on en parlera. Mais c'est vraiment important. Je n'ai pas la vérité, je cherche à la proclamer. Et on a besoin les uns des autres. Et troisièmement, le mystère révélé, la vérité nous indique que Christ est le début, le contenu et l'avenir de notre vie chrétienne. Donc c'est important de le connaître et de savoir quelle est son influence dans chaque partie et élément de notre vie. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour cette épître à Timothée qui est si riche, qui nous montre aussi, même en prenant très peu de paroles, que tu veux nous enseigner jusque dans des profondeurs insoupçonnées. Aide-nous, Seigneur, à saisir l'importance de ces textes qui sont écrits et qui ainsi ne bougent pas et qui ainsi sont des fondements solides sur lesquels on peut s'appuyer. Tu préserves ta parole et nous en sommes tellement reconnaissants. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu es celui aussi qui construit ton Église, cette maison de Dieu, ce lieu où tu habites. Tu n'habites pas dans un lieu fait de main d'homme, mais tu habites dans ceux que tu sauves. Seigneur, c'est quelque chose qui nous dépasse, mais aussi c'est aussi quelque chose qui nous engage et c'est en même temps quelque chose qui nous rassure. Oh, donne-nous, Seigneur, la grâce de le saisir toujours plus et de regarder notre frère, notre sœur en Christ comme étant habité par toi et qu'ensemble nous formons cette maison de Dieu, cette église du Dieu vivant, cette colonne et cet appui de la vérité. Seigneur, nous te prions de nous aider à toujours mieux saisir ce mystère de la piété, cette œuvre extraordinaire accomplie par Christ, dans laquelle nous entrons par toutes les actions de piété dont nous n'avons même pas parlé ce matin. Donne-nous, Seigneur, cette grâce de saisir toujours plus ta parole, de la vivre, de l'aimer, de la transmettre et de nous laisser façonner par elle. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez entendre d'autres prédications ou profiter de ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.